Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, le foot peut-il, doit-il servir à véhiculer certaines valeurs ? Le sujet n'a jamais autant divisé les organisateurs et les équipes participantes à la Coupe du Monde 2022. Alors que l'événement se tient dans un pays, le Qatar, où les restrictions à la liberté d'expression sont nombreuses et les femmes et les personnes homosexuelles victimes de discrimination. Les joueurs doivent-ils afficher leur solidarité ? Non, a tranché la FIFA. Et pourtant, il existe dans l'univers du ballon rond des lieux où le combat contre l'homophobie et les discriminations s'écrit depuis de nombreuses années. C'est le cas à Hambourg, en Allemagne. Dans le club de St. Pauli, le drapeau arc-en-ciel est hissé de façon permanente sur le toit du stade depuis près de 10 ans. Le reportage de Julien Méchossi.
Am Herzen liegt ist ein Raum. Ich mache hier mal die Tür auf. Wir sind schon auf der Vorderseite lauter Pyro.
Non, nous ne sommes pas dans les tribunes du stade à Millerntor du FC St. Pauli, mais juste en dessous dans le musée géré par les supporters. Britta Henker, l'une des responsables du musée, nous ouvre la porte de l'exposition temporaire dédiée aux ultras du club. Une installation vidéo fait vivre aux visiteurs l'ambiance depuis l'intérieur de la tribune sud, l'antre des plus fervents supporters. Miroir grossissant de la société, le stade de football n'échappe pas aux discriminations, sauf ici, comme le souligne avec fierté Britta Henker.
C'est écrit noir sur blanc dans le règlement du stade. Toute parole discriminatoire est interdite. Personne ne peut être discriminé en raison de sa couleur de peau, de son identité ou de son orientation sexuelle. Et si quelqu'un venait à tenir de tels propos, il se ferait sortir immédiatement du stade. Vous pouvez être sûr que les autres supporters autour feraient comprendre à cette personne qu'elle n'a rien à faire dans notre stade. C'est comme ça que nous avons réussi à bannir toute discrimination, les supporters ont pris les choses en main.
Actuellement, en Zweite Bundesliga, la seconde division allemande, le FC St. Pauli fait partie des clubs les plus populaires du pays, malgré l'absence de palmarès. Un statut que le club doit à son engagement politique, né dans les années 80. Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il fallait séparer le football de la politique à propos du Qatar. Pas à St. Pauli, ici le football est perçu comme un vecteur de valeurs contre le racisme, contre les discriminations de toutes sortes. Jour de semaine, plus de 2 heures encore à patienter jusqu'au coup d'envoi du dernier match de St. Pauli à domicile avant la trêve de la Coupe du Monde. Parmi les nombreux supporters déjà présents, Dirk Brulao, quand on lui demande de se présenter, la réponse fuse, fan de St. Pauli et homosexuel. Au début des années 2000, il a cofondé le groupe de supporters Queer Pass. Leur objectif, se regrouper avec d'autres supporters non hétérosexuels, vivre sa passion dans le stade et faire accepter que le football appartienne à tout le monde. Plus de 20 ans plus tard, cet objectif est largement atteint, avec un engagement du club inscrit sous le tableau d'affichage.
Voir cette phrase inscrite dans le stade, c'était mon grand rêve. Le football n'a pas de genre. Parce qu'en fin de compte, peu importe qui tape dans le ballon, que ce soit quelqu'un qui porte des talons hauts, un hétérosexuel, un homosexuel ou une femme, le ballon, lui, il s'en fiche, il continuera toujours à rouler. L'année dernière, le club a changé d'équipementier. Ça a été l'occasion de mettre encore plus en avant les couleurs arc-en-ciel. Aujourd'hui, elles sont intégrées au blason du club, présent sur les maillots. Et ce que moi je trouve génial, c'est que ces couleurs ne sont pas seulement portées par l'équipe première. Elles sont présentes dans toutes les classes d'âge, jusque chez les jeunes. C'est un message très fort. Et cette initiative a été reprise par de nombreux autres clubs amateurs de la ville.
Cet engagement du club à tous les étages et l'identité politique du FC St. Pauli ne suscite cependant pas que des réactions positives, notamment lors de derbys contre des équipes dont les supporters n'ont pas fait le même chemin.
C'était pendant un match à Rostock. Une grande partie du stade a commencé à scander « Vous êtes tous des PD de Hambourgeois ». Et là, dans le bloc visiteur, les ultras de St. Pauli ont tous répondu d'une seule et même voix « Mieux vaut être PD qu'homosexuel ». Ils ont donc choisi l'humour pour répondre à ces insultes. Cette réaction a été pour moi un grand moment de bonheur. Personne n'a dit aux ultras de scander cette phrase en retour. Ils l'ont fait tout seuls, sans se concerter.
Des comportements de moins en moins tolérés à la lumière de la Coupe du Monde au Qatar. En Allemagne, la question du boycott de la Coupe du Monde est très présente. Entre les milliers d'ouvriers morts sur les chantiers, la corruption de la FIFA et les droits humains, 70% des Allemands déclarent vouloir boycotter la compétition.
C'est un geistiger Schaden.
Un reportage de la télévision publique allemande n'a pas aidé à améliorer l'image du Qatar. On y voit Doha, l'ambassadeur qatari de la Coupe du Monde, déclarer en toute sérénité que l'homosexualité serait un dommage mental. Une phrase que les supporters de Zhang Paoli n'ont pas attendue pour boycotter cette Coupe du Monde, comme le rappelle Britta Hemker.
Boycott total, il n'y aura rien autour de cette Coupe du Monde. Ces dernières semaines, nous avons organisé de très nombreux événements, que ce soit par le club ou les fans, comme des soirées débat par exemple, avec des ouvriers étrangers qui ont construit les stades au Qatar. Le message est clair, Sankt Pauli boycott ce mondial. À la place, nous allons rediffuser des matchs d'anciennes Coupes du Monde.
D'autres nations majeures du football, comme l'Angleterre mais aussi l'Allemagne, avaient annoncé vouloir arborer le brassard One Love lors de la compétition. Mais face aux menaces de la FIFA, de suspension, voire même de retrait de points, elles ont finalement toutes décidé de reculer.
La Coupe du Monde de football au Qatar est l'une des plus politisées de l'histoire du tournoi. Les 7 fédérations européennes à l'origine du brassard One Love ont dû finalement renoncer à arborer au Qatar ce symbole de soutien à l'égalité et à la communauté LGBTQ+. Un bandeau noir non aux discriminations remplacera partiellement le petit brassard blanc avec un cœur aux couleurs arc-en-ciel. La décision a déçu un grand nombre de fans et de joueurs en Europe, Marie Billon.
Les capitaines des équipes d'Angleterre et du Pays de Galles ont joué leur premier match du tournoi sans le brassard One Love qu'ils avaient l'intention de porter jusqu'à quelques heures avant le coup d'envoi. Leur fédération et celle de 5 autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Suisse, avaient accepté l'idée d'une sanction financière si les joueurs arboraient le brassard, mais ont décidé que des sanctions sportives, un carton jaune pour les capitaines, étaient une punition trop lourde. C'est la FIFA, la Fédération internationale de football, organisatrice de la Coupe du Monde, qui refuse le port de ce bandeau blanc avec un cœur dans lequel se trouve un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+. Le Qatar continue à criminaliser l'homosexualité et accueillait mal cette marque de soutien. Pour tenter d'éviter les critiques après cette volte-face de dernière minute, la FIFA a annoncé dans la foulée que les 32 capitaines pourraient porter le brassard approuvé, non aux discriminations, dès le premier match et non à partir des quarts de finale, comme cela était prévu. Mais ça n'a pas empêché la fédération galloise de se dire frustrée et déçue de cette censure qui ne dit pas son nom. La fédération anglaise avait quelques heures avant le coup d'envoi du premier match signalé son intention de trouver d'autres moyens pour exprimer son soutien aux personnes discriminées. Les Anglais ne sont donc pas épargnés par les critiques, ni les 6 autres équipes qui sont accusées d'avoir cédé sous la pression. Mais la plupart des fans et des associations blâment la FIFA. L'association des fans anglais, par exemple, s'est dit trahie. Aujourd'hui, lit-on dans un communiqué, nous ressentons du mépris pour une organisation qui a montré ses vraies valeurs en donnant un carton jaune aux joueurs et un carton rouge à la tolérance.
Ils sont plus de 2000 à dormir dans les rues de Bruxelles. Des enfants, des femmes, des mineurs non accompagnés, des familles entières, faute de solutions d'hébergement pour ces demandeurs d'asile. Le système belge d'hébergement des migrants est complètement saturé et le monde associatif doit prendre en urgence le relais de l'État. Le reportage à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
Tassel a 17 ans et son visage est un masque de fatigue. Assis sur le trottoir, le jeune Afghan est arrivé en Belgique il y a 2 semaines et rapidement on l'a orienté vers l'Office des étrangers, un lieu incontournable, une porte d'entrée pour les nouveaux arrivants car c'est ici que l'on dépose les demandes d'asile après des heures de file d'attente.
J'ai demandé l'asile ici il y a 1 semaine et demie, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place pour moi. Je dors dans la rue, il pleut parfois et puis il fait tellement froid. J'espère avoir une place dans un centre.
En moyenne, il faut 4 mois pour obtenir une place dans un centre d'accueil. Pourtant, une fois le dossier de demande d'asile déposé, cela devrait être immédiat. L'État belge, via FEDASIL, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, est en effet théoriquement et légalement censé protéger et loger ceux dont les dossiers sont à l'étude. Mais depuis le début de l'année, la situation ne fait que se dégrader, constate Magali Pratt, chargée de mission au SAMU social. Elle se démène chaque jour pour trouver des places.
C'est effectivement un peu une loterie tous les jours, malheureusement. Le matin, on sait au fur et à mesure combien de personnes viennent ici s'enregistrer à l'Office des étrangers. Et après, au fur et à mesure de la journée, on entend en fait le nombre de personnes qui restent sur le carreau. Depuis un an, il y a énormément d'hommes isolés qui sont à la rue. On parle de plusieurs milliers qui n'ont pas eu de place d'accueil au sein du réseau FEDASIL. Et depuis un mois, malheureusement, un niveau supérieur, puisque là, on parle de mineurs étrangers non accompagnés et de femmes isolées et de familles avec parfois des enfants en très très bas âge. Et donc nous, malheureusement, au niveau de tous nos centres d'accueil, on est généralement complet. Donc tous les jours, on doit refuser des gens et laisser malheureusement des gens sur le carreau.
Au moins 2300 personnes dorment dehors à Bruxelles, selon les associations. Alors Médecins Sans Frontières a ouvert un conteneur médicalisé juste à côté de l'Office des étrangers, une clinique mobile que l'on voit d'habitude dans des pays en guerre et pas dans la capitale européenne, peste David Vogel, chargé de plaidoyer chez MSF Belgique.
Les premières constatations qu'on a pu faire sont quand même assez inquiétantes. On a aujourd'hui une épidémie de gale à Bruxelles qui est assez difficile à gérer en l'absence d'hébergement. On a eu les premiers cas de diphtérie confirmés chez nos patients. C'est vraiment des recrudescences finalement de maladies qu'on croyait oubliées en Europe. C'est directement lié aux conditions de vie en fait et au fait que ces personnes, pour l'épidémie de gale, c'est assez facile à traiter si on a accès finalement à un hébergement ou à des douches. Mais à partir du moment où les gens le soir doivent retourner en squat, en rue, sur un morceau de carton, c'est très très difficile finalement de soigner ces maladies. Et pour des maladies comme la diphtérie, c'est bien évidemment directement lié aux conditions de vie, à l'exposition à la rue, c'est évident.
Alors comment en est-on arrivé là? Certes, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté, passant de 2600 par mois au début de l'année à 4200 aujourd'hui, mais c'est en fait tout un système qui est saturé. D'un côté, FEDASIL, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile sous tutelle de l'État, souffre d'un manque de places, 32 000 seulement, toutes occupées, d'un manque de moyens et de personnel aussi pour garantir un toit aux demandeurs. De l'autre, le CGRA, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, est accusé de mettre trop de temps à étudier les demandes d'asile. Tant que ce dernier n'a pas rendu ses conclusions, le demandeur est alors maintenu dans le système FEDASIL. Il y a donc un embouteillage et pas de place pour les nouveaux arrivants. Il y a plus d'entrées que de sorties. Il faudrait créer au minimum 500 ou 600 nouvelles places d'accueil par mois, lâche-t-on chez FEDASIL. Du côté des associations, on est excédé et fatigué, lassé de devoir pallier les manques de l'État. Un État belge qui a été condamné plus de 5000 fois depuis le début de l'année pour ne pas avoir rempli ses obligations. Ce que dénoncent les avocats en droit des étrangers qui se sont récemment mobilisés à Bruxelles. Maître Marie Doutrepont est avocate au barreau de Bruxelles.
Il n'y a rien qui change actuellement. Il y a eu tout récemment un arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme qui dit la même chose. Rien ne change et donc nous comme avocats et avocates, on est démunis. On ne sait plus quoi faire, on lance des procédures, on gagne et rien ne bouge. Donc la seule chose qu'on peut encore faire, c'est venir parler à la secrétaire d'État en disant qu'est-ce que vous comptez faire, à quel moment est-ce que vous allez mettre en place des solutions d'urgence? Est-ce que vous allez vraiment attendre que quelqu'un meure de froid ou meure assassiné dans une rue de Bruxelles pour vraiment mettre en place des solutions?
Pour faire face à l'urgence, les associations réclament l'ouverture de chambres d'hôtel pour les demandeurs d'asile, une solution à laquelle le gouvernement n'est pas favorable, craignant un appel d'air vers la Belgique. Il lui préfère l'ouverture d'abris humanitaires d'urgence avec l'embauche d'intérimaires par FEDASIL afin de répondre à la demande. Dans le même temps, au commissariat des réfugiés, on annonce également l'embauche de 50 nouveaux collaborateurs d'ici la fin de l'année pour accélérer l'examen des demandes d'asile. Les associations, elles, ne sont pas convaincues. Elles répètent que le temps presse, pointent du doigt les 2300 personnes qui dorment à la rue et craignent par-dessus tout l'hiver qui arrive.
Il y a un an, presque jour pour jour, 27 migrants qui voulaient se rendre en Angleterre se noyaient en traversant la Manche. Cette semaine, Londres et Paris ont signé un nouvel accord pour surveiller les côtes et empêcher ces traversées. La nouvelle ministre de l'Intérieur britannique, Suella Braverman, 42 ans et avocate, a fait la une pour avoir effacé la brouille entre Paris et Londres sur ce dossier. Portrait d'une ultra-conservatrice qui a le vent en poupe, signé Juliette Garbrandt.
Ancrée à l'extrême droite du Parti conservateur, Suella Braverman ne s'embarrasse pas de retenue quand elle évoque les sujets qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre l'immigration.
I would love to be having a front page of the Telegraph with a plane taking off to Rwanda. That's my dream.
J'adorerais voir à la une du Télégraphe la photo d'un avion qui décolle pour le Rwanda. C'est mon rêve, dit la ministre, qui soutient ardemment l'accord signé par sa prédécesseure Priti Patel avec Kigali, un accord qui finance sur le territoire africain des centres où seraient envoyés les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Suella Braverman a aussi déclenché une mini-crise diplomatique avec le Premier ministre albanais en qualifiant de gang de criminels les migrants venus de son pays. Sa nomination à l'intérieur inquiète les associations humanitaires. Claire Mosley, fondatrice de Care for Calais.
Elle considère que les personnes à Calais ne sont pas des demandeurs d'asile et parle d'invasion. C'est très décevant que le gouvernement parle d'une façon qui sème la division et la haine dans notre pays.
Les associations dénoncent la signature d'un nouvel accord avec la France pour renforcer la surveillance des côtes, mais elles ne sont pas les seules. Les critiques viennent aussi du Parti conservateur. Une députée du Kent juge le texte inefficace. Des critiques compréhensibles, estime Simon Usherwood, professeur de l'Open University au nord de Londres.
Ce qui est frappant, c'est que Braverman a consacré beaucoup plus d'efforts à ce texte qu'à essayer de résoudre les problèmes de délai de traitement des demandes d'asile, qui semblent être le véritable goulot d'étranglement dans le système. Elle s'intéresse plus à ce qui est visible, ce qui va plaire aux électeurs, qu'au fait d'avoir le meilleur impact sur les résultats.
Fervente apôtre du Brexit, Suella Braverman a dirigé en 2015 un groupe d'élus eurosceptiques. Aujourd'hui, elle veut que le Royaume-Uni quitte la Cour européenne de justice qui bloque, par exemple, le projet avec le Rwanda. La ministre de l'Intérieur, qui a fait ses études de droit à Cambridge et à la Sorbonne, dénonce également le pouvoir des juges dans son propre pays. Elle conteste, comme l'a fait Boris Johnson, le Judicial Review, un processus équivalent au contrôle juridictionnel assuré en France par le Conseil d'État. Issue d'une famille d'origine indienne, Suellen, de son vrai prénom, s'est engagée en politique dès l'université. Et outre son franc-parler, elle est aussi connue pour sa persévérance et pour son opportunisme, selon de nombreux observateurs. Simon Usherwood.
C'est vraiment un animal politique. Elle sait que son poste lui permet de se faire un nom. Et la loi et l'ordre, c'est un fondamental des conservateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une passion, mais pour l'instant, ça lui est très utile. On sent qu'elle a les yeux tournés vers le 10 Downing Street.
Suella Braverman devra toutefois attendre. Elle devra aussi veiller à éviter les dérapages. Elle n'est pas, ou pas encore, la favorite du Parti conservateur.
Et avant de se quitter, un petit détour par l'Islande, pays propice à l'écriture, puisque un Islandais sur 10 publie un livre au cours de sa vie. Et depuis un mois, une nouvelle plume a fait une entrée remarquée. La première ministre en exercice, Katrín Jakobsdóttir, vient de publier son premier polar, les explications de notre correspondant Jérémy Richard.
Chef de gouvernement représentant l'Islande aux quatre coins de la planète, Katrín Jakobsdóttir a finalement profité de l'épidémie de Covid-19 et de cette période sans déplacement pour prendre la plume. Un exercice libérateur alors que de nombreuses restrictions ont cours sur l'île. Le genre est particulièrement familier pour la première ministre de 46 ans, mordue de polar qu'elle lit quotidiennement après ses journées de travail. Sa thèse finale, avant l'obtention d'une maîtrise en littérature islandaise, portait sur le travail du célèbre romancier Arnaldur Indriðason. L'idée de cette fiction policière intitulée Reykjavik est venue au cours d'un déjeuner début 2020 avec son ami Ragnar Jónasson, écrivain populaire en France. C'est l'histoire de la disparition mystérieuse d'une adolescente à Viðey, une petite île au large de la capitale islandaise, sur laquelle un journaliste local, Valur, décide de se pencher 30 ans plus tard, en 1986. Cette année où se déroule l'intrigue est l'une des plus marquantes de l'histoire récente de Reykjavik, qui fêtait alors ses 200 ans, assistait à l'apparition de ses premières télévisions et radios privées, et lieu d'un sommet historique entre les dirigeants américains et soviétiques, Reagan et Gorbatchev. Le livre, très documenté avec des détails bien réels, est salué par la critique locale. Il était même un best-seller 2 jours seulement après sa sortie et reste aujourd'hui encore en tête des ventes des librairies en Islande. Le nom de la première ministre sur la couverture attise sans doute la curiosité des lecteurs.
Et la version française de Reykjavik est attendue à l'automne 2023. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet, les réseaux sociaux ou en podcast. À demain.